Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Cette semaine, nous révisons nos classiques et repartons vers l'Égypte des pharaons. Mais c'est un voyage intérieur que nous allons accomplir. Nous allons tâcher de nous glisser dans l'âme des anciens pour tenter de capter le sens du panthéon fantastique qu'ils nous ont légué. Ce bestiaire divin, ces créatures zoomorphes, aussi fascinantes qu'effrayantes, ces personnages mi-dieux, mi-bêtes, si on les considère comme des symboles, dévoilent leur mystère derrière leur beauté dérangeante. Les projections artistiques de la psyché humaine sont universelles. Simultanément, dans différents coins de la planète, apparaissent les mêmes signes, les mêmes rites, des pyramides chinoises de la province du Shaanxi aux momies incas des hautes vallées du Pérou, en passant par les taureaux ailés des Assyriens et le sphinx de Gizeh. Ces rituels ont survécu, se sont transformés jusque dans nos cultes monothéistes sous une forme qui nous semble plus acceptable, mais qui n'en est pas moins chargée des mêmes forces. Nous tâcherons de comprendre comment les Égyptiens qui maîtrisaient la quadrature du cercle il y a 4000 ans adoraient des dieux à tête de vache. Pour cela, il nous faut passer par la musique bien sûr et la case chaman.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Call me the crawling king snake, and I rule my den.
Jim Morrison au chant, Ray Manzarek au clavier, The Doors bien sûr, Crawling King Snake, The Doors, mais les portes, mais les portes de quoi? Non, pas les portes du cabinet, les portes de la perception. Le chaman utilise des instruments de musique pour établir une communication sonore avec son esprit groupe, mais pas n'importe quels instruments. Chacun avait une fonction bien précise en rapport avec l'énergie animale convoitée. Ces instruments sont les plus vieux du monde. On les a trouvés dans des grottes paléolithiques. Ils datent de 35 000 ans et sont toujours en activité. Là, par exemple, on entend le rhombe qui sert à convoquer l'esprit du bison. C'est un lasso avec un bout d'os attaché au bout qui émet ce vrombissement quand on le fait tourner autour de sa tête. Les aborigènes l'appellent « bull roar », le mugissement du taureau. Ça, c'est une flûte d'os de vautour. Pour le renne, par contre, on va s'appuyer sur des sifflements émis dans des os de renne mordus par des loups. Des morsures qui ont été élargies par l'homme. En effet, lorsque des loups attaquent un renne, un sprinter court aux avant-postes et tâche de lui mordre la patte postérieure afin de le déstabiliser, de le faire tomber. Le renne, une fois à terre, se fait dépecer par la meute. Eh bien, les trous dans la partie postérieure et tempe de l'os font siffler. Des sifflets d'os de renne pour parler au renne, des lassos vrombissants pour parler au bison, des flûtes en os de vautour pour parler aux oiseaux, ou plutôt à l'esprit groupe de chaque animal concerné.
Voilà un objet sacré. Une crécelle en tortue.
L'esprit groupe, c'est l'entité spirituelle qui plane dans l'éther au-dessus d'un groupe d'animaux afin de les guider. Par exemple, l'esprit groupe des saumons les pousse à remonter le fleuve à contre-courant pour pondre à la source afin de donner de meilleures chances aux alevins de se développer tout en descendant sans trop de difficultés plus tard le cours du fleuve. L'esprit groupe des oies, c'est l'entité qui les téléguide afin qu'elles volent en escadrille parfaite en forme de V. L'esprit groupe des abeilles régit leur vie sociale, calibrée au millimètre près, etc., etc. Chaque race d'animaux a son esprit groupe. Les chamans entraient en contact avec ces entités. La première entité spirituelle qui se balade donc au-dessus de nos têtes, que nos anciens captaient sans problème, puisqu'ils vivaient en contact étroit avec les forces spirituelles de la nature, cette première entité, c'est l'esprit groupe d'un animal.
Et l'esprit de groupe chez les humains, qu'en est-il ?
Non, mais vraiment hâte d'être dans le stade, d'écouter la Marseillaise.
Et sinon, on n'a pas autre chose ?
Comment ressouder les liens au sein d'une entreprise ? Comment motiver ses salariés ? Eh bien, certains dirigeants font appel à des coachs
pour une journée cohésion de groupe.
Des gens qui travaillent au final l'un à côté de l'autre, mais échangent que par mail. Ce jour-là, échangent et s'amusent.
Bon, ben, on n'est pas rendu, hein.
Gay, 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 je suis l'amour sorcier. Gay, 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 ma tête est oiseau. Gay, 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 je suis l'amour sorcier. Gay, 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 mon corps est taureau. J'ai ce qu'il vous faut. ferai ruisseau. Gué, 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 et je m'enflammerai. L'amour sorcier, gué, 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 ma tête est oiseau, gué, 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 je suis l'amour sorcier, gué, 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 mon corps est taureau. Venez à moi, venez par milliers, la terre et le ciel, on va les marier, mais je vous fais peur et vous préférez lancer vos sagues, lancer vos sagues. Gué, 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 j'ai un moral d'acier. Gué, 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 je vous guérirai. Gué, 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 mesdames et messieurs. L'amour, c'est pas sorcier.
Claude Nougaro, grand chaman, grand sorcier, qui chante l'amour sorcier.
Les routes de la musique, André Manoukian, sur France Inter.
Dans la hiérarchie spirituelle, le premier esprit que rencontre un homme qui sortirait de son corps, ce que les sorciers, les musiciens et certains animateurs télé savent très bien faire en ingérant des plantes psychotropes ou autres boissons sacrées, c'est l'esprit d'un animal.
Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu es maintenant un chat. Par Osiris et Parapis.
Dans les cultes polythéistes égyptiens, c'est l'essence de l'animal qui est vénérée et non l'animal lui-même. Ce sont les énergies concentrées sur sa représentation qu'on tâche d'intégrer par mimétisme en priant devant elle. D'où l'apparence surnaturelle de ces créatures mi-homme, mi-bête qui personnifient une énergie particulière. La force du buffle, la capacité respiratoire du lion, la fécondité du taureau. Les peintures rupestres indiquent une tentative de communiquer avec l'esprit des animaux, une volonté d'acquérir leur force et leur qualité. Rusé comme un renard, agile comme un singe, sans attendre La Fontaine ni Ésope, l'homme de la préhistoire est connecté avec toutes les bestioles de la terre et surtout, il les porte en lui. De même que les Égyptiens vénéraient des dieux zoomorphes, les Amérindiens ornaient leurs totems de représentations animales, oiseaux, loups, ours. À travers des sculptures animales monstrueuses, monstrueuses au sens littéral de « montrer », ils transposaient l'énergie de l'animal sur l'objet qui le représente. Et par là même, celui qui brandit l'objet est investi des qualités de l'animal représenté, qualités qui vont influencer jusqu'au nom des hommes de la tribu. Ainsi, chez les Amérindiens, le caractère d'un homme détermine le choix du totem. La cérémonie du baptême est collective. Toute la tribu se réunit autour du jeune garçon ou de la jeune fille afin de lui choisir l'animal, le végétal ou le minéral qui correspond le mieux à sa personnalité, auquel on va rajouter un adjectif qualificatif représentant une qualité que l'impétrant possède ou qu'il souhaite acquérir. Par exemple, moi, je me suis fait baptiser, et ben, j'étais orignal. L'orignal, c'est ce caribou avec des grandes cornes. Et comme ma qualité, c'est d'être distrait, j'ai donc été baptisé au cours d'un baptême indien, orignal, distrait.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler d'animal totem. Qui pourrait être vos animal totem?
Il est temps de libérer l'animal qui est en vous.
C'est un animal qui vous ressemble, c'est un animal qui est lié à vous. Mais c'est pas forcément votre animal préféré. c'est pas forcément un animal qui est beau.
Moi, je suis gaie comme un pinson. Lui, c'est une poule mouillée.
Elle ?
Elle est muette comme une carpe. André, lui, il saute du coq à l'âne.
Donc voilà, ça c'était un peu mon point de vue.
Et vous ?
Qui êtes-vous ?
Un animal sauvage ou un animal domestique ?
Que nos instincts nous poussent à l'instant, tout s'éteint sous le temps. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Je suis. Je suis sale mais aussi je vis par terre, paternoster. Et vu d'en bas, la vie ça vient comme on va. Tout dérisoire descend pour voir. Et si l'on sème les corps en avant, oublions bien les croix. Nul homme moral et meurt sans crevant. Je ne veux voir que toi. Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Aux étoiles, nature en fait lever le voile. Si toi aussi viens, suis donc avec audace, transpire en plein, sois-en fier. À force de classe, ils vont s'y faire.
Viens, ni bien, ni mal. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux.
Le chasseur, avec l'aide du chaman, établit une connexion avec l'esprit de l'animal. Avant de le tuer, il lui demande pardon. Et puis, il le remercie en lui expliquant que c'est avec respect que son énergie vitale sera consommée afin que le cycle de la nature se perpétue. On demande même à l'esprit animal de guider la flèche du chasseur, de lui rendre son cœur pur au chasseur afin que le sacrifice soit proprement fait et que l'animal souffre le moins possible. La première énergie avec laquelle nos ancêtres sont reliés est donc l'énergie animale. À travers le simulacre, une véritable communication s'établit. Un simulacre est une représentation offrant la réalité cachée aux yeux des hommes. Simulacre, en grec, se dit eidolon. Eidolon qui va donner en latin idole. Voilà un glissement sémantique qui en dit long et qui explique comment l'esprit groupe de l'animal va devenir une idole et comment les hommes du passé ont fait des animaux leur dieu. Le chaman est l'opérateur de ce process. Il est le standardiste qui met en relation celui qui appelle avec l'esprit invoqué. Et puis, par le chant et la danse, il redistribue l'énergie cosmique à toute sa tribu. Aujourd'hui, nous ne croyons plus en rien. Le doute est partout. La science porte ses propres limites. Et pourtant, si les gens ne vont plus à la messe, ils vont au concert. Eh bien, ça participe de la même ferveur, du même désir de se retrouver dans un collectif pour vibrer à l'unisson aux incantations du chanteur chaman. Ainsi, la musique aujourd'hui est le dernier rituel sacré de nos sociétés matérialistes, le dernier espace de magie, et ce n'est pas un hasard si nos chamans contemporains se sont donné le titre de MC, maître de cérémonie, et ceci sans avoir lu Lévi-Strauss. Oui, les rappeurs de nos cités sont animés de l'esprit des sorciers de la préhistoire ou des prêtres de l'Égypte antique. C'est la force de l'archétype, une structure psychique en tant que telle, définie par Jung, qui passe à travers les époques, portée par l'inconscient humain.
Esprit, es-tu là ?
Es-tu là ?
Il y a de cela quelques jours, vers les 2 heures du matin, j'entendis très distinctement derrière moi des voix qui m'appelaient
André.
Je me retournai brusquement.
Personne.
Il n'y avait
vraiment personne.
Mais non, André, il y a vraiment un esprit qui vous parle.
Ils surgissent comme des fantômes. Ils traversent les troncs. Répétez.
Ils traversent les troncs.
Aussi sont-ils extrêmement ponctuels. À la minute près, ils seront là où vous ne les attendez pas.
André, André, il y a l'esprit qui arrive.
Thank you.
Gil Scott Heron, chanteur, poète et romancier, nous interprétait Spirit.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Cette notion d'esprit groupe, si elle peut sembler fumeuse aux matérialistes, n'est en fait qu'une représentation de l'ensemble des connexions subtiles qui existent entre les éléments d'un groupe. L'esprit, c'est une information qui circule. Ça ne nous rassure pas sur la qualité spirituelle de notre époque au vu des chaînes d'infos continues ou de la twittosphère, mais c'est comme ça. Et ça existe même chez les végétaux, cette notion d'esprit groupe. Aujourd'hui, la science vient étayer cette notion. En effet, après 30 ans de recherche, on vient d'établir que les arbres communiquent entre eux. Aux avant-postes d'une forêt, qu'un bouleau se fasse attaquer par un parasite, et aussitôt il prévient les autres qui commencent à sécréter sur leur écorce une résine répulsive.
Nota bene, les plantes aussi ont une âme.
Vous ne vous êtes jamais dit que les plantes doivent sentir, qu'elles sont conscientes, qu'elles comprennent même?
Sapin, petit sapin, un cerisier ou un merisier. Les noisettes, testicules d'écureuil. Oh, chèvrefeuille, magnifique cascade de chèvrefeuille. Tronc noir, sans feuilles.
Michel Le Bouleau discute avec Monique l'érable du temps qu'il fait à la cime de leur tronc.
Les arbres, ce noisetier, ils sont là. Ils ne galopent nulle part. C'est nous qui galopons. Remuons, disons, des incongruités. Parce que la nature qui est en nous, nous ne voulons pas nous y fier.
Stop ! Arrêtons-nous de courir et écoutons les arbres.
Les végétaux possèdent donc un esprit, nous disent les occultistes égyptiens, les chamans amérindiens, les papous de Bornéo et les savants du CNRS. Mais voilà que les minéraux aussi possèdent un esprit. Tenez, je m'enlève un bout d'ongle avec les dents et je le jette sur ma table. C'est inerte, ça n'a pas de vie, ça ne bouge pas, ça ne pense pas. C'est idiot, quoi, un bout d'ongle. Mais si il n'y avait pas eu mon corps pour le fabriquer et mon esprit pour me dicter de mordre délicatement le bout de mon doigt afin de l'extraire sans me faire du mal, il ne serait pas là à se faire observer, majestueux dans toute son inertie, ce bout d'ongle. Eh bien, c'est pareil avec la pierre. Les pierres ne sont que des amas, des concrétions sécrétées par un esprit, mais alors très très haut l'esprit, hein, puisque là, on parle carrément de l'esprit qui gère les planètes. On parle de cette énergie qui a densifié du gaz et en agrégeant des molécules subtiles de plus en plus grosses, en a fait la matière. Cet esprit, chez les hindous, il est très près du Dieu créateur. Il est localisé dans le Devachan supérieur, littéralement, le monde des dieux.
Nota bene 2. Les minéraux, eux aussi, ont une âme.
Je suis un rocher. Je ne bougerai pas. Je suis la pierre chaude sur laquelle tu peux dormir. Pose ton corps à l'envers. Tu vas voir le paysage, le ciel. Vous, les humains, vous êtes tellement différents. Vous, les humains, vous êtes tellement dispersés. J'en peux plus.
Stop ! Arrêtons-nous de courir et écoutons les cailloux.
Sacred sea. DNA, the memory of all time. Mother's twin sons recorded code creates all cycles of life. Fallen seed plant and conceive the up and down worlds collide. Woman overcomes this sacred birth, the blood earth sacrifice. Spinning, warping, escandier, magnetosphere, dancing in flight. Expands to island, Pangea, stands sky, woman, tree of light. Star, sun, and moon, coincide, control ocean tides together. Further rain. fire and hurricane, four winds and begin forever. Within each seed is a universe, within a universe. You and me and everything that breathes is connected to the sacred seed, sacred seed. DNA, the memory of all time. Mothers, twin sons, recorded, co-creates all the circles of life.
La sublime chanteuse amérindienne Pourafé qui nous chantait Sacred Seed. Alors cette notion d'esprit groupe, relative aux animaux, aux plantes et même aux minéraux, que nous dit-elle quand on l'applique à l'homme? Elle nous dit « tragédie ».
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?
L'homme est la seule créature dont l'esprit est incarné, contrairement aux animaux dont l'esprit groupe plane au-dessus de l'espèce. Le seul être vivant sur cette terre dont la conscience se débat entre son instinct animal et son devenir divin, entre sa survie égoïste et son altruisme, entre la force centrifuge qui lui fait absorber l'énergie des autres et la force centripète qui lui fait offrir son énergie aux autres, entre Dionysos et Apollon chez les Grecs, entre Seth et Osiris, chez les Égyptiens, c'est l'homme. La naissance de la tragédie, chez Nietzsche, est la confrontation entre l'esprit apollinien et l'esprit dionysiaque. Entre l'individuation qui tend l'homme à s'extraire du groupe pour aller vers la lumière et l'esprit grégaire qui tend à s'immerger dans le groupe, à se déresponsabiliser pour suivre la meute et, ce faisant, renouer avec son animalité. Aucun jugement dans ce dualisme. Contrairement aux dérives platoniciennes qui, reprises par les chrétiens, vont dégager une ligne de fracture entre le monde spirituel vrai, beau, infini et le monde matériel, illusoire, corrompu et voué à la pourriture. En gros, le spirituel c'est bien et le matériel c'est caca. Assez, nous dit Nietzsche. Les deux forces antagonistes, apollinienne et dionysiaque, sont nécessaires et complémentaires. Et l'homme, au cours de sa vie, oscille en permanence entre ces deux états. Mais cette polarité est à la base du drame humain.
L'intolérable, c'était de laisser pourrir sans tombeau le corps de mon propre frère. Oui, c'était cela pour moi, l'intolérable.
Oui, Antigone, si elle écoute la loi de son clan, laisse pourrir le cadavre de son frère qui a trahi sans sépulture, ce qui lui assure une damnation éternelle. Mais si elle écoute la voix de son cœur, sa pulsion apollinienne, elle l'enterre et encourt à son tour la peine de mort qui sera prononcée par Créon, son propre père. Quand Sartre dit qu'on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande, il dit en fait qu'on a le choix. La liberté de choisir entre les deux camps était lumineuse. En ce sens, Antigone est l'incarnation de la liberté. Elle choisit la voie apollinienne, s'extrayant du groupe pour accéder à la pleine conscience, guidée par son altruisme au sacrifice de sa vie. Le théâtre grec nous dit tout des principaux conflits qui nous torturent. Assister à une représentation d'une pièce de Sophocle, c'est voir incarner les tourments secrets de notre âme et qui vont au bout de leur destin, chose qui nous arrive si rarement dans la vraie vie.
if there is a hardness in the heart, it must be broken, must be broken. If there are words inside untold, they must be spoken. If there is a candle burning at the shrine, it must burn down, must burn down. Until the very last drop of wax is spent, this hope will have no ground. Wherever I turn, wherever I spin, and these are the words of the dance we're in. La voce tua non la dire, la voce tua falla sentire. If there is sadness swelling at the throat, the tears must run, the tears must run. As raindrops fill the ocean, they must be released and sung. If there are voices silenced in the darkness, louder they'll shout, louder they'll shout. The crowds will take the streets, their anger must be let out. Wherever I turn, wherever I spin, and these are the words of the times we're in. La voce tua nulla è timire, la voce tua falla sentire.
Entre esprit apollinien et esprit dionysiaque, est-ce que les musiciens sont torturés ?
Chère voix, chère Elsa, mais oui, les musiciens sont torturés. Et comment traduisent-ils leur torture, leur douce torture, bien entendu, musicalement ? Eh bien, avec un concept qu'on va appeler les tensions et les résolutions. Qu'est-ce que c'est qu'une tension ? Alors, on va recommencer un petit peu, toujours avec cette note fondamentale à partir de laquelle tout se passe, ce fameux Do et ses harmoniques. Vous vous souvenez que dans une note de musique, il y a beaucoup de notes qui sont cachées, qu'on n'entend pas, que l'oreille humaine décèle à peine s'il est exercé. Par contre, les chiens qui entendent les ultrasons seraient capables de les entendre, sauf qu'ils ne nous racontent pas tout ce qu'ils entendent, les chiens. Bref, je recommence. Dans un Do, il y a des notes cachées. La première harmonique est le Do à l'octave. La deuxième est la quinte, le Sol. La troisième est le Do à nouveau. La quatrième est la tierce, le Mi. Et la cinquième à nouveau, le Sol. Okay. Donc ce qui nous fait cet accord parfait, Do-Mi-Sol, qui nous fait du bien aux oreilles quand on joue. Pourquoi ? Parce que simplement, ces notes sont contenues à l'intérieur de la fondamentale. Donc on a un sentiment de pure harmonie. Maintenant, on va regarder ce que sont des extensions d'accords. Ça, c'est mon accord parfait, Do-Mi-Sol. Sol, Do, avec la fondamentale, la tierce et la quinte. Je vais les chiffrer, ces notes. On va dire que le Do, c'est le 1,
Ré, c'est le 2, Mi, 3, Fa, 4, La quinte, 5, La sixte, et Si, La septième. Me voici donc avec un accord parfait majeur, avec 1, 3, 5, si je devais le chiffrer. Maintenant, si je rajoute La septième, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une couleur harmonique complètement différente. Je vous enchaîne deux accords de septième majeur. Vous voyez cette couleur tout de suite? Ça vous fait penser à quelque chose? Ben oui, c'est Erik Satie. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre la fin du 19e siècle pour que les musiciens commencent à jouer avec les tensions ou avec les extensions d'accords. Si je fais la même chose, donc ça c'est une célèbre gymnopédie. Maintenant, je fais la même chose avec des accords majeurs. Vous voyez comme c'est plat à côté. Dès que je mets la septième, tout d'un coup, j'ai une couleur qui est complètement différente. On va être beaucoup plus dans l'impressionnisme parce que tout d'un coup, on va voir quelque chose d'ambigu. Il y a presque quelque chose de mélancolique qui se dégage d'accords qui sont pourtant majeurs. À cause de quoi elle vient cette mélancolie? À cause de ce frottement qui va exister entre la septième et la fondamentale, entre le si et le do. Et oui, ça sonne extrêmement bossa nova. Ces tensions vont faire toute la couleur du jazz et de la bossa nova par extension. Alors là, on a vu la tension de la septième majeure. Parce qu'il y a deux septièmes, ok? Je suis en do, voilà, la septième majeure, c'est le si. Mais la septième diminuée, c'est le si bémol. Et là, tout d'un coup, me voilà encore avec une autre couleur. Avec une autre couleur et avec l'intervalle du diable, l'intervalle du triton entre la septième et la tierce. L'intervalle qui était interdit au Moyen-Âge. Et c'est évidemment l'intervalle qui va être préféré des bluesmen. Là, j'enchaîne deux accords de septième diminuée. C'est tout ce qui donne la saveur au blues. Des accords de septième qui s'enchaînent. Ce qui n'est pas naturel, c'est une construction pour aller un petit peu pleurer. C'est-à-dire, je suis à la fois majeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait un accord de neuvième augmenté. Or, on revient en arrière. Voilà, on s'aperçoit qu'on a deux couleurs, donc la septième majeure, qui donne une couleur plutôt planante et mélancolique, qui vient tempérer le caractère majeur de l'accord en lui donnant toute sa couleur. L'accord de septième diminué, l'accord des bluesman. Et maintenant, on va aller sur la neuvième. La neuvième, c'est donc... Par rapport à mon do, c'est donc un ré. Donc je fais mon accord avec ma tierce, ma quinte, ma septième, et voilà ma neuvième. Vous voyez comme on appelle ça des extensions d'accords. C'est-à-dire que je prolonge mon accord harmoniquement, et là je vais me retrouver avec un accord à 1, 2, 3, 4, 5 sons. Un accord à 5 sons. On enrichit, ça s'appelle l'enrichissement. Donc l'accord de neuvième... Il est censé se résoudre sur la tonique, puisque c'est un ré, c'est un degré faible. Je recommence. Dans mon accord, j'ai ces notes do, mi, sol, qui sont les notes les plus fortes et qui vont attirer les autres comme des aimants. Si je joue le ré, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de faire ça. Vous vous rappelez Mais si je reste sur la neuvième, je reste sur la tension. Et là, c'est un petit peu comme du teasing. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne résous pas. Et là, bah, c'est un petit peu comme si j'excite. Et puis, je ne résous pas. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est là que tout le charme de cette musique qui ne se résout pas. Elle va créer sans arrêt des déséquilibres et je vais jouer entre le déséquilibre et le rattrapage. C'est-à-dire que je crée un petit problème au lieu de jouer sur la fondamentale. Je joue sur la neuvième. Et puis si je change d'accord, je vais jouer sur la neuvième de cet accord-là, du Fa qui va être un Sol. Et puis, il va bien falloir que je finisse. Alors, je vais enfin résoudre. Vous avez compris pourquoi le jazz, c'est la musique la plus sexy du monde.
Crawling up inside your lungs, feeling up your mind with my tongue. I didn't need to know, but now I need to end. Tonight we roll, we rock.
I've been a wreck for deliverance.
On a parlé d'esprit, c'était un peu fumeux, mais c'était une tentative de nous approcher de ces notions spirituelles qui irriguent la musique. Cette émission était réalisée par la grande prêtresse Fanny Beaumont. La voix était la divine Elsa Denac. La déesse Muriel Pérez assurait la programmation et le mage Kevin Pelot l'enregistrement. À la semaine prochaine.